Canal Sud 92.2, bonjour. Comme Ridan vient de vous le rappeler, aujourd'hui c'est contre-histoire. Nous avons eu l'occasion de faire un petit tour à Mexico la semaine dernière via la salle du Sénéchal. Comme le film présenté commençait et finissait par la photo d'une statue d'une divinité olmèque, au trait de jaguar, je demandais à la fin à la conférencière pourquoi on n'avait pas abordé davantage la culture et la statuaire olmèque en particulier. Il m'a été répondu que ce n'était pas le sujet de cette conférence, dont le titre était « Mexico, Tenochtitlan ». Bien sûr, Tenochtitlan était la capitale aztèque, dernière civilisation mexicaine, soigneusement ratatinée par Cortés au XVIe siècle. Mais alors, pourquoi commencer et finir le voyage par l'art olmèque sans rien dire d'autre, alors qu'il révèle un passé prodigieux et mystérieux? Alors, je vais vous raconter ma promenade personnelle au pays des Olmèques, je veux dire au Mexique, laquelle promenade remonte à une douzaine d'années, après que l'explosion de l'AZF m'ait donné le goût de profiter de la vie, comme à beaucoup d'autres Toulousains. Nous étions partis, un petit groupe de Toulousains, et nous sommes d'abord précipités au musée anthropologique de Mexico. Et là, dès la première salle au rez-de-chaussée, la première chose qui nous a sauté aux yeux a été une petite statuette de bois étiquetée « Civilisation Olmèque, 1200 ans avant Jésus-Christ ». Jolie pièce, beau travail dans un bois qui devait être bien dur pour avoir traversé les millénaires. Et le personnage, représenté avec force détail, au visage particulier, était de type négroïde évident. Les lèvres, le nez, les pommettes. Alors quelques camarades se sont écriés « 1200 ans avant Jésus-Christ, ils n'ont pas pu venir en Airbus. » Certes. Alors les esprits chagrins pourront objecter qu'il est possible de faire passer dans un bagage une statuette, même ancienne, plus facilement qu'un flacon de shampoing. Et que les trafics en tout genre ayant toujours existé hier et aujourd'hui, la tromperie était possible. Bien sûr. Alors, on s'est tous mis à chercher des vestiges olmèques. Et on a vu dans les jardins de Mexico une tête négroïde olmèque de 40 tonnes et 3 mètres de haut, en basalte. Plus de 3 mètres d'ailleurs. C'est beaucoup plus grand que nous, beaucoup. Pour l'hypothèse du sac à dos, c'était un peu juste. Surtout que cette tête gardée là pour décorer le jardin fait partie de toute une famille d'une douzaine de sculptures monumentales de la même époque, en général du même matériau, toutes des têtes négroïdes qui s'étalent autour de Mexico et Veracruz. Alors,
il faut envisager la situation autrement. Si éventuellement la petite statue avait pu faire l'objet d'un trafic quelconque, bon, on ne va pas lancer Sherlock Holmes là-dessus, on peut se poser la question, mais pour la tête de 40 tonnes, je pense qu'il n'y a pas, il y a plus de questions à se poser, quoi. Bon, seulement, voilà, nous on était une petite bande de joyeux Toulousains, de joyeux Baba Cool, et qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit que devant cette évidence, dont absolument personne ne parle, nous les joyeux écolos, marginaux, etc., personne n'allait nous croire. Moralité, si on voulait se faire entendre, eh ben, il n'y avait plus qu'à travailler. Alors, on a essayé de travailler. On sait déjà que, par exemple, les Vikings avait déjà traversé l'Atlantique à peu près 1000 ans, je crois,
500 ans avant Christophe Colomb. Donc oui, c'est à peu près ça, 1000 ans après Jésus-Christ.
Alors voilà, mon ami Alex qui va venir me faire des misères. Chaque fois que j'énonce quelque chose, eh ben, il me met des peaux de banane. Bon, alors c'est pas 1000 ans, c'est combien?
Là, je ne vais pas faire de misère. Là, on a des traces archéologiques de poterie et de restes d'habitations vikings en bois qui sont arrivés en Islande, au Groenland et au Canada, donc en Amérique du Nord. Pratiquement uniquement. Et en fait, les Vikings n'avaient pas de boussole, mais ils avaient une pierre de spathe qui permettait de se repérer par rapport au soleil. Et donc, ils avaient des habitats, des petits bateaux assez légers, mais ils ont réussi apparemment à venir jusqu'en Amérique. Mais ils n'y sont pas restés, tout simplement.
Mais ça, la pierre de Spa.
La pierre de Spa, ouais. S-P-A-T. Donc c'est une pierre qu'on a retrouvée justement chez les Vikings. On s'est rendu compte que justement, 1000 ans après Jésus-Christ, les Vikings savaient voyager en se guidant avec le soleil.
Bon, des Vikings, que les Vikings aient découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Je pense que les gens le savent peu ou prou, et puis surtout les gens sont plus réceptifs à ce genre d'informations. Je dirais que ça les dérange moins. On peut se poser plus sérieusement la question. Ces Olmecs qui avaient des drôles de tête, qui est-ce qu'ils étaient et où est-ce qu'ils vivaient? Alors peut-être avant d'approfondir la question, on va faire un petit tour musical au Mexique, si vous voulez bien.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy el día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días acostadita en tu cama. Con jazmines y flores hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar.
Donc Daniel, qui a découvert l'Amérique?
Eh ben moi, je ne suis pas complètement sûre que ce soit les Olmecs. Peut-être même qu'il y a eu des gens avant eux. Mais en tout cas, les Olmecs, ils ont une présence absolument flagrante. Et on peut se demander qui ils étaient et où est-ce qu'ils se sont installés, peut-être d'où est-ce qu'ils venaient. Alors, ce qu'ils étaient, ça c'est absolument certain, c'est ils ont été les artisans de la première grande civilisation mexicaine, laquelle s'est épanouie pendant une dizaine de siècles, donc Alors, quelquefois, on dit 10 siècles, on dit de 1500 à 500 ans avant Jésus-Christ. J'ai trouvé récemment une proposition qui parlait de 30 siècles. Alors, mais en tout cas, bon, ils étaient là-bas il y a longtemps, voilà. Avant les Toltecs, avant les Aztèques et les Mayas. Alors, il y a une dame qui est professeure d'ethnologie à Sorbonne 4, Madame Caterina Magni, qui a démontré dans un très gros bouquin que je me suis bien sûr procuré, et qui s'appelle « Les Olmèques des origines au mythe », elle a justement démontré que c'était effectivement la première grande civilisation mexicaine. Et cette civilisation avait écriture, système de numérotation, etc., etc. Donc, c'était pas des hommes des cavernes, c'était une civilisation tout à fait brillante. Alors ça, c'est donc ce qu'a démontré Madame Magni. Il y a aussi Marcus Winter qui a analysé ça dans le milieu du XXe siècle. Et Madame Magni a repris ses travaux. Bon. Alors, on retrouve les vestiges de cette civilisation tout autour du golfe du Mexique. Et en particulier dans la presqu'île du Yucatan et même jusqu'au Costa Rica. On retrouve ça aussi par-ci par-là dans tout le Mexique et jusqu'à la côte pacifique et la Californie. Hein, parce que la Californie faisait partie, jusqu'au 19e siècle, la Californie faisait partie du Mexique. Alors c'est ce que les historiens appellent la Mésoamérique ou Amérique centrale. Donc vous voyez l'espèce de lien qu'il y a entre les deux Amériques, hein, cette espèce de lien très très découpé, très très exposé au tremblement de terre, etc. Voilà. Alors donc voilà pour localiser les Olmèques. Alors donc, je vous ai dit qu'on était tombé sur une tête olmèque de 40 tonnes et de plusieurs mètres de haut, 3 ou 4 mètres de haut, voilà, avec des traits donc négroïdes spécifiques. Et ce genre de traces olmèques, il y en a plein. Dans tout le bassin de Veracruz, hein, c'est un peu au nord-ouest de Mexico. C'est ce qu'on appelle les statues de la Venta, autour de San Lorenzo. Alors,
cette question-là, tu as un livre donc, qui est juste à côté de toi, où on peut voir justement les statues, voilà, les faces des statues. Et là, on peut bien se rendre compte que ça ne ressemble pas ni à des Mexicains, ni à des Européens.
Voilà, absolument.
Donc, comment on peut les décrire à la radio ?
Comment on peut les décrire? Ben écoutez, voilà la tête 5 de San Lorenzo. Il y a une chose qui est assez, bizarre, bon, remarquable, c'est que toutes ces têtes, pas la petite statue que j'avais vue dans la salle du musée d'anthropologie, mais toutes les têtes qui sont à l'extérieur, toutes les têtes des énormes statues de basalte, toutes ces têtes sont casquées. Ça devait être, je ne sais pas, tous les historiens se sont posé la question. Ils étaient, ça devait être des militaires.
Tout à fait.
Hein, je suppose, des militaires,
près, oui.
Certains ont dit que c'était probablement un signe d'aristocratie, c'était peut-être des rois.
Là, on peut voir même sur celle-ci une coiffe qui est quand même assez dérangeante par rapport à...
Alors oui, alors ce que me montre Alex, effectivement, c'est la tête 4 à San Lorenzo. Et ben, je t'avoue que cette tête, je n'y avais pas fait attention depuis le temps que je travaille la
question. Parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose de très africain, là.
Alors là, c'est oui, c'est spécifiquement africain. Oui. Bon, le visage est tout à fait spécifiquement
voire
africain.
Voire même Afrique du Nord par rapport à
oui,
la coiffure.
Oui, et il y a une espèce de chéchia avec un pompon qui est tout à fait typique. Maghrébin.
Ouais, c'est tout à fait typique maghrébin.
Oui, oui, absolument.
Et
oui.
La tête sur celle-ci est beaucoup moins grosse que sur les autres. Les autres sont beaucoup plus africaines, Afrique du Centre, que celle-ci est beaucoup plus fine, peut-être beaucoup plus d'ordre maghrébine.
Oui, 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 c'est bien possible, oui. Oui, 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 parce que c'est vrai que l'ossature du visage dans les populations maghrébines est souvent assez fine, assez fine, étroite. Et, assez étroite, oui, oui.
Et on voit vraiment dans les autres statues la forme des yeux, du nez et la bouche avec les lèvres qui sont.
Avec les lèvres épaisses, oui.
Des grands nez, des gros nez, des gros yeux et un visage quand même assez.
Oui, moi je m'étais posé une question, je me suis dit, mais quand même, le statuaire Olmèque, s'il n'était pas d'origine africaine, celui qui a fait ces statues-là, pourquoi est-ce qu'il a fait ces visages comme ça? Il ne les a pas inventés? Et d'autre part, si on prend par exemple les statues de l'île de Pâques, qui sont beaucoup plus rudimentaires, les statues de l'île de Pâques ont des nez droits. Elles ont des lignes très aiguës. Alors que les statues olmèques, eh ben le statuaire, il n'y est pas allé à coups de marteau et de burin grossier. Il s'est cassé la tête. Il a passé je ne sais pas combien de temps à reconstituer des traits extrêmement fins et précis. Les paupières, mais alors le nez, c'est bien plus difficile de faire un nez épaté que de faire un nez droit.
Oui, tout à fait.
C'est logique, quoi. Et la bouche aussi. Faire une bouche mince, ben c'est tout simple. Hein. On fait un trait, on creuse un peu au-dessus, un peu en dessous, et puis la question est réglée. Tandis que ces bouches-là ont un relief extraordinaire.
Et vu les sculptures, on peut même se dire que par rapport aux traits des sculptures, que toutes les sculptures n'ont pas été faites par le même sculpteur.
Ah oui, oui, c'est évident, c'est tout à fait évident. Oui, oui, oui. Le style de travail est tout à fait différent, absolument. Absolument. Alors, cette histoire, cette question de la négritude olmèque, donc, beaucoup de gens, dont on ne parle pas, mais ils sont très nombreux, ont confirmé cette théorie, si vous voulez. Alors, et ça depuis longtemps. Alors, vous trouverez, si vous cherchez les Olmèques sur Wikipédia, vous allez entendre parler de José Elgar Serrano, qui était un ethnologue mexicain, et qui a caractérisé la statuaire olmèque carrément comme négroïde, ça, à la fin du XIXe siècle. Il y a également Alfredo Chavero, qui est arrivé aux mêmes conclusions. Il a fait un ouvrage spécialisé, « Mexico a través de los siglos », en 1887. De nos jours, Matthew Stirling a confirmé cette opinion. Et il y a, en l'an 2000, l'ethnologue Rukuno Rashidi, dont vous retrouverez des nouvelles sur Wikipédia, a cité un livre amérindien traditionnel, qui semble être pour les Indiens quelque chose comme l'équivalent de notre Genèse. Et ça s'intitule « Histoire de la survie des Indiens du Sud-Ouest américain ». Alors, ce livre raconte le continent américain et il le décrit comme le monde noir. Il rappelle des légendes américaines, les légendes les plus anciennes, qui mettaient en scène des personnages autochtones noirs. De plus, au Pérou dans la vallée de Casma et aussi en Colombie, on a trouvé et on voit dans les musées des statuettes et des céramiques aux traits négroïdes qui ont été datées au carbone 14 aux environs de 1500 avant Jésus-Christ.
Donc là, ce qu'on pourrait en dire quelque part, c'est que si les Africains, je dis bien si les Africains étaient arrivés en Amérique du Sud, on n'aurait plus de traces de ces Africains puisqu'il y aurait eu au fur et à mesure un métissage avec soit des Indiens d'Amérique ou autres.
Oui.
Donc les Péruviens et les Colombiens auraient du sang africain. mais ce sera un métissage de ceux qui étaient là à l'origine, croisés avec les Africains. Et donc, on aurait perdu cette couleur noire.
Eh bien, ça, c'est une question... c'est vraiment une bonne question, parce que moi, je me suis demandé, justement, depuis combien de temps les Olmèques étaient au Mexique quand ils ont quand les sculpteurs ont produit ce genre d'œuvre, parce que effectivement ils n'ont pas l'air métis du tout, hein, les statues n'ont pas du tout l'air métis. Ben la question, on a trouvé effectivement d'après déjà Chavero, Serrano et Rukunu Rashidi, on a déjà trouvé des traces qui remontent au-delà de 1500 ans avant Jésus-Christ. Ah, là, t'es en train de me casser ma baraque parce que ma progression là, elle est par terre. Mais la question est très très importante, elle est même capitale. Alors on va un petit peu bouleverser le plan. On a trouvé alors un des arguments des historiens qui refusent d'accepter que ce soit les Africains qui aient découvert l'Amérique, un de leurs arguments, c'est qu'on n'a pas retrouvé de corps, de traces corporelles africaines sur le continent, enfin des traces anciennes, remontant à 1500 ou plus avant Jésus-Christ, on n'en a pas retrouvé sur le continent américain. Eh bien, ce n'est pas vrai. On en a retrouvé, on a trouvé des traces d'humanité noire aux Amériques 35 000 ans avant Jésus-Christ, au Brésil, sur un squelette féminin de race noire que les anthropologues ont baptisé Lucia. Et puis, en 2001, on a découvert aussi en Amérique du Sud 6 crânes négroïdes de 12 000 ans. 12 000 ans d'âge, donc 10 000 ans avant Jésus-Christ. Voilà.
Et 10 à 12 000 ans, mais on n'arrive pas spécialement à dater la pierre. Donc cette statuette, elle a peut-être voyagé en bois, elle a peut-être voyagé en avion.
Oh, c'est
mais
pas vrai.
Celle qui est en pierre, peut-être qu'elle est plus vieille que l'on pense.
Ah oui, ça c'est tout à fait possible. Bon, moi ce que j'ai trouvé dans l'histoire de Lucia, 35 000 ans avant Jésus-Christ, c'est ce que j'ai trouvé de plus ancien. Oui, mais effectivement, là, on ne peut pas dater ça précisément. Ce n'est pas possible. Mais on est très, très, très loin de, de Christophe Colomb. Absolument. Alors, il y a une chose qui moi, m'a désolée et qui, finalement, maintenant, me fait plutôt rire. Moi, je m'étais précipitée sur le livre de Madame Catherine Amanier parce que... ce livre, elle a sorti ce livre juste quand moi je revenais du Mexique complètement éblouie scandalisée de cette espèce d'omerta qu'on faisait sur le sujet. Alors j'étais persuadée que Madame Catherine Amani allait démontrer ce que nous, notre petit groupe de Toulousains, on se sentait avoir découvert sur place. Eh ben pas du tout, du tout. Voilà. Madame Manier assure que les Olmèques, donc elle assure ça en 2003, elle assure que les Olmèques n'étaient pas noirs. Et elle analyse et résout le problème au début de son livre, de façon à ce que ce soit clair. En ces termes, le voyageur retient essentiellement les traits négroïdes de type éthiopien du visage sculpté, au point de conclure, de manière hâtive et erronée, qu'il y avait dû sans doute avoir des noirs dans ce pays. Suggestion reprise par Chavero, comme je vous ai dit, qui expose à son tour des théories fort discutables sur les migrations entre continents. Un point, c'est tout. Alors, si vous êtes convaincu, eh bien, tant pis pour moi, si vous êtes convaincu par Madame Magny, mais moi, j'y arrive pas. Voilà. Alors, en plus, si vous voulez, il fallait quand même... pour asséner ça, il fallait quand même un petit peu argumenter. Alors, Madame Magny interprète les traits négroïdes qui sont absolument incontestables, elle les interprète comme étant ceux stylisés du jaguar. Le jaguar, animal sacré au Mexique. Alors, il est tout à fait vrai que le jaguar est omniprésent au Mexique, partout. Je vous parlais de la statue de la déesse de la pluie. Elle a une drôle de tête de jaguar, une sacrée tête de jaguar, véritablement. C'est incontestable. On trouve des têtes de jaguar partout. Bon. Mais je vous laisse vous promener sur Google, Wikipédia, et si vous avez accès au site de l'Universalis, c'est la même chose, sauf que les photos sont de meilleure qualité, encore plus précises. Il n'y a pas une différence, il y a des différences, ça n'a rien à voir. Même la statuaire Olmec qui a... je dirais pas bidouillé, mais qui a stylisé les traits du jaguar, ça n'a rien à voir avec un visage négroïde. C'est... tu as le livre, là.
Le jaguar est beaucoup plus fin. Enfin, c'est,
oui, le jaguar. Et puis, bon, ben... le museau du jaguar et le, je dirais, le cou, le menton du jaguar, t'as pas des... Oui, là, ce qu'on est en train de faire, là, on est en train de discuter entre nous, évidemment. Vous pouvez pas voir les illustrations. Oui, il y a quelque chose, voilà, c'est ce genre de choses là où on dit que c'est, voilà.
Oui, là, on ressent plus la forme de l'animal, évidemment.
Oui. Alors là, on va avoir la contradiction, j'ai ça.
Non. Pas du tout.
Non, pas du tout.
Attends. Par contre, t'as le micro ouvert.
Oui, c'est pas grave. Je sais.
On est en émission.
Je sais, j'ai le micro ouvert. Voilà. Mais, voilà, vous êtes admis dans notre intimité à Canal Sud.
C'était la pause bisou.
Voilà, c'était la pause bisou que nous a fait Fatima, qui est un pilier de Canal Sud, que vous aimez autant que nous, je pense. Voilà. Bon, à part ce détail, hein, Madame Magny rend tout de même hommage aux Olmèques pendant 400 pages, et en particulier, elle leur restitue des merveilles que l'on a longtemps attribuées aux Mayas ou aux Aztèques. Voilà. Alors, si vous voulez un peu compléter cette information et puis voir si je vous raconte pas des salades, eh ben vous allez sur YouTube et vous tapez The Truth, hein, T-R-U-T-H, Olmec, Civilization avec un Z. Voilà.
Et donc, c'est une vidéo, c'est ça?
Oui, c'est une vidéo, mais il y en a plein, hein. il y en a toute une série.
Et en lien à Internet, un site Internet, quelque chose à proposer?
Alors...
T'as pas noté.
Ben, disons qu'ils sont un petit peu variables, mais de toute façon, si la première chose à faire pour avoir les photos, vous tapez sur Google, vous tapez « Olmec ». Et là, vous en aurez pour votre argent. Et puis, après, eh ben, ce que je vous avais signalé tout à l'heure, bon, The Truth, The Olmec Civilization pour YouTube, et simplement Civilisation Olmec aussi, vous pouvez faire.
Idem pour les Vikings, vous pouvez aller sur YouTube,
oui,
et découverte
tout à fait.
De l'Amérique,
voilà.
par les Vikings, où il y a plusieurs vidéos, donc quelques-unes qui sont plutôt pas mal faites.
Oui. Alors, pour en revenir à l'implantation africaine en Amérique du Sud, au Pérou, tout à l'heure on parlait du Pérou, on trouve une architecture religieuse qui est faite, donc des églises, qui est faite avec des coraux. On retrouve cette architecture à Saint-Domingue, et on la retrouve aussi sur la côte est de l'Afrique, en Tanzanie, au Kenya, en Somalie. Voilà. Alors on retrouve aussi, mais c'est certainement moins probant, on retrouve aussi des frises, vous savez, des frises, ce qu'on appelle des grecs, hein, des frises à graphisme quadrangulaire. Alors on les retrouve sur des constructions, donc en architecture en Afrique, et on les retrouve aussi au Mexique à la même époque, hein, en datant les monuments de la même époque, on retrouve les mêmes graphismes. Et il y a aussi l'histoire des pyramides. Tu me parlais des pyramides
tout à l'heure. Oui, je parlais des pyramides, parce que les pyramides, c'est quelque chose qui est assez intéressant, dans le sens où là, on en a trouvé en Europe de l'Est. J'ai plus le mot. Excusez-moi. il y en a en Chine.
Oui, en Chine, c'est connu.
Il y en a en Afrique, il y en a en Amérique. Donc, oui. Il y en a partout dans le monde, en fait. Mm-hmm. Voilà. Et on en a trouvé en Europe. Et donc les pyramides, on a pourtant des océans qui séparent ces quatre continents, et il y en a sur les quatre continents.
Et il y en a sur les quatre continents, oui. Et les pyramides péruviennes et mexicaines datent de plus de 5000 ans. Mm-hmm. Hein? Donc, voilà. Et Ruth Chadi, archéologue péruvienne, atteste que ces pyramides ont le même âge. Hein, les pyramides de Caral en particulier au Pérou. Voilà.
Qui sont un peu plus. Enfin, sont particulières, les pyramides du Pérou. Elles ne ressemblent pas aux pyramides d'Égypte.
Ah non, ce sont des pyramides, mais ce sont des pyramides comme les pyramides mexicaines, ce sont des pyramides à degrés.
Tout à fait. Hein, voilà.
Donc. Probablement, il y aurait eu, autour de 1500 ans avant Jésus-Christ, un groupe ethnique de type négroïde. Et comme on le remarquait tout à l'heure, cette population-là n'était pas métissée. Ce qui voudrait dire que c'était une implantation extrêmement récente. Parce que une population antérieure... surtout avec les traditions hospitalières, les traditions de mélange ethnique qu'il y avait, qu'il y a en Afrique et qu'il y a en Amérique, en Amérique du Sud et en Amérique centrale en particulier. Hein, ce sont des pays, si vous vous souvenez de Diderot et de son voyage de Bougainville, il expliquait comment c'était une politesse d'offrir son épouse ou sa fille aux voyageurs que l'on recevait. Hein. Donc, il n'y avait aucun frein, aucune réticence à mélanger les peuples. Au contraire, même.
Oui.
Au contraire. Donc, logiquement, l'implantation africaine qui a généré cette civilisation olmèque, c'était pile poil 1500 ans avant Jésus-Christ.
C'est peut-être assez dur, 1500 ans avant Jésus-Christ, de maintenant faire des recherches génétiques. Peut-être qu'avec, justement, le brassage de tout ça, ça fait que... Est-ce qu'on peut retrouver des traces?
Je ne sais pas. Par contre, je voulais encore rappeler autre chose. Ça fait un peu partie du folklore et du folklore actuel, et c'est plutôt rigolo. Mais il y a, et vous pourrez le vérifier aussi sur Google ou ailleurs, il y a actuellement une tribu dite indienne où les gens sont bel et bien noirs, et complètement noirs, et pas métissés. C'est ce qu'on appelle la tribu des Washito. W-A-S-H-I-T-A-W. Et S, bien entendu. Alors, c'est une tribu qui vit selon les traditions indiennes, nord-américaines. Et c'est Lewis et Clark qui ont rencontré les gens de cette tribu en 1804. Les Washito revendiquent leurs origines africaines et entretiennent leur culture à la fois africaine et indienne. Alors, ils ont une impératrice qu'ils appellent la Washito Empress, bien sûr, et ils mènent une espèce de folklore de la communication assez drôle. Donc, l'impératrice des Washito est une dame noire, bien sûr, qui règne sur la tribu indienne et noire des Washito. Elle se promène avec une cohorte, une caravane de superbes voitures américaines. Et ils font des défilés très américains. On dirait un défilé présidentiel avec confettis, flyers, sonos et tout ce que vous voulez. Ce sont des gens très, très pacifiques et extrêmement respectueux des lois. Donc, ils ne vont pas poser de problèmes d'ordre public, au contraire. Simplement, ils ne veulent pas qu'on les oublie. Alors, ils font en gros ce qu'il faut pour ça, quoique...
Ils ont le même mode de vie que les Indiens.
Oui, ils ont le même mode de vie que les Indiens.
D'accord. Et pourtant, ils sont noirs. Donc, ils ont fait quoi? Ils ont vécu en autarcie
Je pense qu'ils ont dû vivre dans une certaine autarcie. Et je me demande si ce ne sont pas eux les ancêtres des Olmèques, puisqu'ils ont réussi à conserver ces caractères physiques très précis et pas du tout édulcorés. Voilà.
Alors, d'où pouvaient venir les Olmèques?
Ah oui. Eh bien, comme nous venons tous d'Afrique, je suppose que, comme tout le monde, eh ben, ils venaient d'Afrique, forcément. L'humanité s'est répandue en remontant par la corne de l'Afrique vers le nord-est pour aller peupler l'Asie et puis après l'Amérique en passant par le détroit de Bering. Alors, à pied, à dinosaures ou à mammouth, ça leur a pris quand même un peu de temps. Mais en suivant le gibier, puisque la migration était en particulier alimentaire. Alors ça, c'était il y a 4 ou 5 millions d'années. Millions d'années.
C'est pas tout jeune, en fait. Là on n'est plus dans les...
On change complètement d'échelle. Alors, pendant ce temps-là, la pigmentation de la peau, pour ceux qui avaient atteint l'hémisphère nord, eh ben, elle s'est éclaircie. Le grand anthropologue André Langanet a fait une conférence en 2006 à l'École normale supérieure de l'art d'Ulm à Paris, et il a démontré ce fait qui est admis depuis très longtemps, hein, d'ailleurs, depuis Mendel. Hein. Bon. Il a conclu que la pigmentation de la peau s'adapte donc à l'intensité du soleil au fil du temps. Alors, ça pose donc la question de l'antériorité de l'immigration olmèque. De deux choses l'une, s'ils descendent de très anciens voyageurs africains depuis des millions d'années, ou seulement depuis 35 000 ans que Lysia est décédée, ou même depuis seulement 12 000 ans, ils auraient dû perdre ou atténuer leurs traits négroïdes caractéristiques. Alors, au contraire, la netteté de leurs traits atteste, ce qu'on disait tout à l'heure, d'une immigration récente, au moins pour les modèles des sculpteurs, ou alors d'un refus de métissage, ce qui est surprenant quand on pense aux traditions d'hospitalité. Voilà. Moralité, les Olmèques ont dû s'implanter au Mexique à une période relativement récente. Alors, les Olmèques eux-mêmes, hein, maintenant qu'il y ait eu une autre population noire avant, ça c'est apparemment assez évident, mais disons que c'est une autre histoire, c'est le cas de dire.
Oui, ça aurait été une probabilité qu'une autre civilisation plus ancienne soit là depuis très longtemps, oui, et vive en autarcie quelque part, mais bon, ça c'est autre chose.
Voilà. Alors, il y a des ouvrages mayas qui parle des Olmèques comme étant des navigateurs commerçants. D'autre part, les troupes de Christophe Colomb et d'Hernán Cortés ont trouvé au Mexique des lances faites d'argent, de cuivre et d'or, avec des pointes dorées, identiques à celles qui ont été trouvées en Afrique de l'Ouest. Alors, Colomb et Cortés ont envoyé des spécimens en Espagne, où on a constaté que les proportions étaient les mêmes en Afrique donc et au Mexique. Les proportions étaient les mêmes et les techniques de fabrication aussi. Alors à cette époque, donc au XVIe siècle, le prêtre Fray Gregoria Garcia a rédigé un rapport sur une rencontre de populations noires au Mexique. Mais, c'était l'époque de l'Inquisition, très peu de temps après, et l'Inquisition a détourné son ouvrage. Ensuite, au même moment, ou quasiment, Fernando Colón, le fils de Christophe, a écrit dans son journal, qui a été retrouvé, il a écrit dans son journal, bien avant donc la traite négrière, qu'il avait rencontré des personnages de race noire aux Caraïbes. Et puis, Rodrigo de Colmenares et Vasco Núñez de Balboa, et puis aussi le breton capitaine de Keralette, et d'autres explorateurs ont rapporté des témoignages concordants à propos des Caraïbes et du Mexique. Un évêque espagnol de la conquête, Friar Diego de Landa, a évoqué 12 migrations historiques d'Olmecs par bateau. Et en 1920, Léo Wiener, qui était diplômé de Harvard, a soutenu la théorie des Africains précédant Colomb dans son ouvrage « L'Afrique et la découverte de l'Amérique », donc en 1920. En 1969, Basil Davidson a écrit « Africain avant Colomb ». Et puis, en 1975, Alexander von Württemberg a appuyé la théorie dans son livre « Aspects cachés de l'ancienne Amérique ». Alors, il y a encore d'autres détails, comme on dit, que l'on peut cumuler. Par exemple, les Olmecs ont développé la culture du maïs. Mais le maïs n'existait pas en Amérique avant eux. Par contre, le maïs a toujours été une culture africaine traditionnelle et Wikipédia, d'ailleurs, l'appelle le blé de Guinée. Alors, vous en faites ce que vous voulez. Hein. On va peut-être faire un petit tour.
J'ai juste peut-être sur Christophe Colomb, quand il est arrivé il a trouvé découvert l'Amérique, entre guillemets, il s'est rendu compte qu'il y avait plein de Chinois. Il y avait plein de Chinois partout. Et en fait, apparemment, il y aurait une grosse flotte Ming qui serait arrivée en 1420, qui aurait découvert avant Christophe Colomb l'Amérique. Mm-hmm. Et donc, il serait déjà très loin d'être le premier.
Oui. Ouais, donc, Christophe Colomb, il peut aller se rhabiller. Hein. Bon. Alors, il y a encore d'autres coïncidences, si on peut dire. Ce sont des questions de vocabulaire. On a retrouvé certains mots qui sont très, très proches en Afrique, dans les langues malinké, mandingue ou bambara. On a retrouvé des mots caractéristiques qui sont les mêmes que ceux quasiment utilisés dans le Yucatan. Alors, dans le Yucatan, pour dire maïs, on disait « ko ».
En malinké, on dit « ka ».
Voilà. Pour dire le champ, dans le Yucatan, on dit « takam ».
Et en malinké, « takaka ».
Le loup-garou qui enrichit nos légendes, dans le Yucatan, on dit Amateka.
Amatigui.
Amanitigui.
Amanitigui, pardon.
Amanitigui. Bon, disons qu'il y a peut-être une racine commune, voilà. Et le diable, Oré, dans les Caraïbes.
Et là, c'est Oré aussi.
Et c'est Oré aussi, voilà, en mandingue. Et le tissu dont s'enveloppent les femmes, le pagne féminin que l'on drape, dans le Yucatan, c'est Nagua.
Et là, c'est Nagda.
Voilà. La terre, dans le Yucatan, on dit Kab.
Ka.
En malinké. Voilà. Et le ciel, Kwan.
Kan.
Voilà. Le soleil, c'est Kin.
Ki.
ce qui est écrit, hein, écrit, le mot écrit, c'est Sib.
Seb.
Voilà.
Ou Seb, je sais pas.
Le chef, c'est Cook.
Cook.
Dans l'Yucatan. Et Cook en malinqué, voilà. L'or, hein, qui fait courir le monde entier, l'or, c'est Guanin. Guanin, disons guanin, ouais, guanin, parce que la prononciation est hachée. On dit guanin, voilà,
là, dans le Yucatan. Que dans le malinqué, c'est guanin.
Guanin, oui. Moi, ça me fait rire.
Ils sont assez d'accord sur l'or, quand même.
Oui, moi, ça me fait rire cette terminologie pour l'or, parce que, immanquablement, moi, ça me fait penser à guano. Enfin, bon, ça n'a rien à voir. Bon. Bon. Fumer, par contre. Fumer. Dans le Yucatan, c'est douli.
Et là, c'est doulili.
Voilà. Et la tomate qui pousse sur la terre entière, c'est koya dans le Yucatan.
Et koya aussi dans le malinqué.
Et voilà. Bon, maintenant, ça, c'est évidemment moins probant que ce qu'on vous a raconté jusqu'à présent, parce que, bien sûr, pour évaluer la prononciation, la sonorité de ce qui se pratiquait 1500 ans avant Jésus-Christ et davantage, c'est pas évident du tout, même si les civilisations olmèques avaient une écriture. Et à propos de cette écriture, je voulais vous préciser que cette écriture se faisait avec des rouleaux. Et l'écriture avec des rouleaux, l'impression avec des rouleaux, se pratique toujours actuellement en Afrique. Moi, j'ai un superbe pagne qui a été fait avec des rouleaux, et ça se voit. Sur un rouleau en bois ou n'importe, on a sculpté un motif ou une lettre, un caractère, et puis on le tourne. Et chaque fois qu'on tourne le rouleau, ben, on obtient la lettre. Bon, c'est une petite parenthèse. Alors, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Hein. Moi, je ne suis pas une historienne, même si j'ai le culot de faire cette émission. Et pourtant, j'avais eu quelques ambitions sur cette question-là parce que ça m'avait vraiment bouleversée. Et puis, pourquoi je n'ai pas concrétisé mes recherches? Eh bien, parce que j'ai trouvé le travail d'Ivan Van Sertima. Alors, si vous cherchez Ivan, hein, I-V-A-N, et Van, V-A-N, et plus loin, Sertima, S-E-R-T-I-M-A. Et là, vous allez tout trouver. Et ce monsieur qui est guyanien, hein, ce monsieur a fait tout le travail que j'avais eu envie de faire le jour où j'ai vu la petite statuette à Mexico, la petite statuette de bois. Et il a démontré effectivement que les Africains étaient allés en Amérique avant Christophe Colomb. Et sa thèse s'appelle Ils étaient là avant Colomb. Voilà. Ils étaient là avant Colomb.
C'est un historien. Quelle est la profession de ce monsieur?
Alors, il est ethnologue, il est historien ethnologue. Alors, c'est une autorité gigantesque. Il est docteur en histoire d'une demi-douzaine d'universités américaines. Alors, je pense que soutenir cette thèse-là devant un public américain au milieu du XXe siècle, hein, sa thèse date des années 60-70, je pense qu'il a dû se cogner à une certaine opposition, je dirais, conservatrice. Hein. Donc, si une demi-douzaine d'universités l'ont fait docteur, c'est que ses démonstrations étaient irréfragable. Voilà.
Faut admettre qu'on est toujours dans le doute avec l'histoire, de toute façon.
certes, mais enfin là, ça commence à faire lourd, quand même, ça commence à faire lourd. Alors, maintenant, comment est-ce que les Olmecs sont venus au Mexique? Alors, il y a l'histoire, tout à l'heure, on vous a lu une petite citation de Madame Magny, où il était question de la dérive des continents. La théorie, à savoir que le continent africain est donc éclaté et que les gens n'aient pas eu besoin de faire le voyage, ils étaient déjà sur le terrain, c'est la terre qui a bougé. C'est pas logique. Pourquoi? Parce que l'éclatement de la plaque tectonique est situé, Wegener la situe entre 160 et 200 millions d'années avant notre ère. Et il n'y avait personne sur la Terre à cette époque-là, hein, ni des bleus, ni des noirs, ni des jaunes. Donc la question est réglée. Logiquement, il y a eu une ou plusieurs migrations relativement récentes, mais bien antérieures à Colomb. Alors, on a dit aussi que les populations noires ont été implantées par des Phéniciens qui avaient amené des esclaves. Ça semble corroboré, hein, ça semble vérifié, ça. Mais moi, je me demande comment est-ce qu'on aurait fait des statues d'esclaves. Quand même, ces statues qui représentent un travail phénoménal, est-ce qu'on peut s'amuser à faire des statues d'esclaves? On peut tomber amoureux des esclaves, oui, ça c'est certain. Mais à ce point,
c'est étrange,
c'est un petit peu curieux, voilà. Un autre raisonnement qu'on peut se faire à propos de la migration des Olmèques, c'est que l'océan, c'est pas forcément une barrière, ça peut être aussi une route. Et là, je pense qu'on a la vérité, parce que les courants entre l'Afrique et l'Amérique, eh ben, y a des courants fondamentaux. Il y a le courant de Guinée qui descend le long du golfe de Guinée, sous l'équateur, et qui remonte l'Atlantique au travers pour arriver au Brésil. Et puis il y a le courant des Canaries, qui part des Canaries et qui remonte vers l'Afrique du Nord par le Cap-Vert et qui rejoint le Gulf Stream pour atteindre l'Amérique du Nord. Et là, il y a quelqu'un que tout le monde connaît et qui a fait cette démonstration, c'est le ministre de la mer de Mitterrand, qui était Alain Bombard, il est décédé. Mais lui, il a fait la traversée en 1952, sans provision, il s'est mis sur un courant, et puis il est arrivé, tranquillement, et plus rapidement que Colomb ou Vespucci. Voilà.
Mais Colomb a bien pris le courant des Canaries.
Ah, ça, je ne sais pas s'il a pris. Voilà, ça, c'est Philippe qui vient encore me casser ma baraque.
Oui. Mais bon, il a pris. Et ensuite, tous les bateaux allant vers l'Amérique centrale prenaient le courant des Canaries. Mm-hmm. Partait de Portugal ou de l'Espagne. Mm-hmm. Bon. Mais j'étais pas là pour casser ton émission. J'étais alors... juste là pour donner une précision.
Merci Philippe. Bon. Alors, il y a un autre navigateur très très connu, surtout des ancêtres de mon âge, Thor Heyerdahl. Alors Thor Heyerdahl, vos grands-parents vous parleront peut-être de l'expédition du Kon-Tiki. T'as entendu parler de l'expédition du Kon-Tiki?
Je sais pas, j'ai jamais connu mes grands-parents.
Bon, Thor Heyerdahl avait fait cette expédition à travers le Pacifique. Et puis, ça ne lui suffisait pas. Alors, il a pris un autre radeau qu'il a appelé le Ra 2. Et il s'est mis sur la route des courants à travers l'Atlantique. Il s'est laissé porter le long du golfe de Guinée, il est remonté jusqu'aux Caraïbes et il a donc confirmé la démonstration d'Alain Bombard et la théorie des migrations africaines d'autrefois. Et ça, c'était en 1970. En l'an 2000, l'historien malien Gaoussou Diawara a révélé dans son livre qui s'appelle « La saga de l'empereur Abou Bakari II ». Qui était empereur au Mali. Il a révélé que cet empereur, en 1311, c'est-à-dire 200 ans avant Colomb, cet empereur avait abandonné son trône à son frère et il avait monté une expédition de plusieurs centaines d'embarcations avec hommes, femmes et vivres pour aller voir ce qui se passait de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, ils sont partis de la Gambie actuelle. Et ils ont abordé en 1312, à la hauteur de Recife et au Brésil. Recife qui s'appelait Pernambuco. Ce nom rappelle le nom de la très riche région de l'Empire du Mali d'alors, qui s'appelait Bourbambouk. Alors, c'est difficile de dire. On ne peut pas vous donner des précisions. Carbone 14 ou pas, on ne peut pas. C'est difficile de dire quand l'Amérique a été découverte. Mais ce qu'on sait, c'est qu'au Mexique ou aux Caraïbes, des Africains, commerçants ou explorateurs se sont succédés. Et ça, plusieurs millénaires avant Jésus-Christ. Voilà. C'est tout ce qu'on peut vous dire. En tout cas, moi, j'en suis sûre. J'espère vous avoir convaincu, mais...
J'ai une petite phrase d'un humoriste, mais je me souviens plus, c'est un humoriste américain qui disait « Christophe Colomb a découvert l'Amérique, il aurait mieux fait de passer à côté. »
Certes. Oui, absolument. Colomb et Cortés, oui. Et tous les explorateurs, ils auraient mieux fait de rester...
À savoir qu'on a perdu beaucoup de preuves sur énormément de choses, puisque tout a été pillé, volé et retrouvé aux quatre coins du monde par la suite.
Voilà.
Donc, malheureusement, il y a beaucoup de statuettes et de pièces, d'œuvres en règle générale qui ne sont plus dans le pays d'origine.
Oui, et en plus, il y a une chose, c'est que actuellement, si on vous a suffisamment mis la puce à l'oreille et que vous voulez sauter dans le premier avion pour aller explorer les restes Olmèques à La Venta et à Mexico, dans le bassin de La Venta, vous allez avoir du mal parce que les sociétés pétrolifères ont mis des barbelés partout et on ne peut plus faire de fouilles parce que il semble plus important de continuer à récupérer de quoi trouer la couche d'ozone que d'obtenir la vérité sur la plus grande civilisation du Mexique. Voilà, on vous remercie de votre écoute et on va vous rebrancher sur la musique du Bayou. Voilà.
Au revoir.
Au revoir et à jeudi prochain.
Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma de provinciana, hueles a limpia rosa temprana, a verde jara fresca del río, son mis palomas, tu caserío, Guadalajara.